de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements informés, entre autres. Ministre de la main-d'œuvre explore la coopération dans le secteur de l'emploi avec la Thaïlande. Ambassade de Pologne coopérera dans divers domaines avec Pekanbaru. Anne Frel apprécie que les élections en Indonésie se soient déroulées de manière sûre et pacifique. Commission électorale générale de la République d'Indonésie procédera à un nouveau vote dans plusieurs régions du centre de Java. Indonésie fera une déclaration devant la Cour internationale de justice. En encourageant la compétitivité, ministère des coopératives et des PME exhorte les MPME à optimiser la technologie numérique. Importance de construire un écosystème de véhicules électriques. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. La ministre de la main-d'œuvre de la République d'Indonésie, Ida Fauzia, a effectué une visite de travail en Thaïlande et a rencontré l'ambassadeur de la République d'Indonésie auprès du Royaume de Thaïlande, Rahmat Budiman. Ils ont discuté des projets de coopération en matière de formation et d'apprentissage. Dans une déclaration écrite dimanche 18 février, citée par Antara, la ministre Ida Fauzia a déclaré que divers programmes de formation et d'apprentissage pourraient être réalisés entre l'Indonésie et la Thaïlande, tels que la formation de techniciens des technologies de l'information et de la communication TIC, des experts en logistique, des agents de santé et un programme de formation en langue thaïlandaise pour les futurs travailleurs migrants. En dehors de cela, il existe également une cartographie du potentiel des travailleurs qualifiés d'Indonésie, la promotion de programmes de placement sûrs pour les deux pays, ainsi que l'importance de la protection des travailleurs indonésiens travaillant en Thaïlande. L'ambassade de Pologne étudie la coopération avec le gouvernement de la ville de Pekanbaru dans divers domaines en visitant le gouvernement, les milieux d'affaires et les universités de la capitale de la province de Riau du 19 au 21 février 2024. Cité par Antara dimanche 18 février, chef adjoint de la mission de l'ambassade de Pologne, Piotr Firlus, a déclaré dans sa déclaration que son parti considère la ville de Pekanbaru comme l'un des principaux centres économiques d'Indonésie en apportant une contribution significative à l'économie régionale et nationale. Selon Piotr Firlus, la numérisation et les transports sont des secteurs de collaboration intéressants. Piotr Firlus a également déclaré que l'ambassade de Pologne encourage la coopération éducative et scientifique qui peut impliquer des projets de recherche communs, des échanges académiques et des partenariats entre institutions. La directrice exécutive du réseau asiatique pour les élections libres, ANFREL, Rohana Hetiarakchi, a apprécié la mise en œuvre des élections de 2024 en Indonésie, qui s'est bien déroulée sur le plan administratif. Rohana a exprimé cette appréciation lors d'une discussion tenue à Jakarta dimanche 18 février, citée par Antara. ANFREL, en tant qu'agence de surveillance électorale, a mené la mission d'observation électorale d'experts internationaux ANFREL pour les élections de 2024 en Indonésie, en déployant des observateurs à court terme, des analystes électoraux et des équipes de gestion de missions dans 11 des 38 provinces d'Indonésie. Au cours de la mission, les observateurs ont surveillé d'importants processus préélectoraux, la période de campagne et le jour du scrutin. Leur évaluation est les résultats d'entretien avec les parties prenantes de l'accès aux informations et documents électoraux pertinents de l'observation directe de l'élection et d'une analyse objective globale. La Commission électorale générale KPU procédera à un nouveau vote PSU dans plusieurs régions du centre de Java. Cité par Antara lundi 19 février, la Commission électorale générale de la République d'Indonésie pour Java Central a déclaré qu'il organiserait des élections générales de suivi dans la région de Demak qui a été touchée par les inondations du 24 février 2024. Outre Demak, il y a 26 bureaux de vote dans 13 districts et villes recommandées pour le vote et la réélection par l'organe central de surveillance des élections de Java, Bawaslu, en raison de violations présumées à la fois techniques et non techniques. L'Indonésie prononcera une déclaration devant la Cour internationale de justice de la Haye aux Pays-Bas. Via les réseaux sociaux, la session de la Cour internationale de justice s'est tenue en réponse à une demande de l'ONU demandant la fin de l'institution concernant l'occupation israélienne de la Palestine. Auparavant, le 30 décembre 2023, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté la résolution A-77-247 qui demandait un avis juridique ou bien avis consultatif à la Cour internationale concernant les conséquences juridiques des politiques et actions israéliennes dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem orientale. Au total, 53 pays et 3 organisations internationales devraient faire des déclarations orales. Le ministère des coopératives et des MPME encourage les petites et moyennes entreprises MPME à utiliser la technologie numérique pour accroître la compétitivité des produits et élargir la commercialisation. Cité par Investor, dimanche 18 février, le secrétaire du ministère des coopératives et des PME de la République d'Indonésie, Arif Rahman Hakim, a déclaré que la technologie est un instrument important dans les efforts visant à accroître la capacité commerciale des MPME. Il espère que les acteurs des MPME pourront optimiser le rôle de la technologie du processus de production et l'emballage jusqu'à la commercialisation afin de pouvoir remporter la concurrence. Arif estime que l'économie numérique deviendra une nouvelle source économique pour les MPME de l'amont à l'aval. Son parti s'engage également à fournir une assistance aux acteurs économiques pour obtenir plus de commodités en termes d'accès à la légalité commerciale, par exemple en fournissant des services faciles aux PME pour obtenir des numéros d'identification d'entreprise, NIB, une certification halal et des permis PIRT en collaborant de manière intersectorielle. Le ministre des Entreprises d'État, BOMN, Eric Toyer, a souligné l'importance de construire un écosystème de véhicules électriques, VE, pour accélérer le développement de l'industrie des véhicules électriques, cité par Antara dimanche 18 février. Eric Toyer estime que l'intervention du gouvernement dans l'industrie automobile est normal si l'on veut accélérer la croissance de l'industrie. Il a souligné que dans les années 80, le gouvernement a également réalisé un programme d'appui à la réalisation de l'industrialisation des motos et des voitures. Eric a expliqué que l'option de subvention pour les voitures et motos électriques importées est considérée comme capable d'accélération la croissance de l'industrie des motos électriques et des batteries de voitures en Indonésie. Cela est possible parce que l'Indonésie contrôle le nickel ou la principale matière première des batteries de motos et de voitures électriques. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Le G7 soutient la création d'un État palestinien et appelle à la fin de la guerre ». Les pays du groupe D7 ou G7, composés des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, plus des représentants de l'Union européenne, soutiennent la création d'un État palestinien et soulignent que le processus qui y mène doit commencer par la création d'un État palestinien en cessant des combats à Gaza. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, à l'issue d'une réunion avec le ministre des Affaires étrangères du G7 lors de la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne samedi, a déclaré que la fin du conflit faciliterait la libération inconditionnelle des otages israéliens et aiderait la population civile palestinienne ayant besoin d'une aide humanitaire. Il a ajouté que mettre fin au conflit permettrait également d'entamer des négociations qui devraient conduire à la création de la paix. D'autre part, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont également condamné le groupe de résistance palestinien Hamas et exclu leur rôle politique à Gaza si la guerre se termine. Le groupe du G7 soutient l'autorité palestinienne en Cisjordanie occupée par Israël, mais exige une refonte afin qu'elle puisse devenir un protagoniste à Gaza. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont également condamné la violence des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, qui est intensifiée depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Pendant ce temps, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi que les critiques qui appellent Israël à ne pas entreprendre d'action militaire à Rafah disent en réalité qu'Israël est en train de perdre la guerre contre le Hamas. Dans sa déclaration, Netanyahu a également indiqué que les troupes israéliennes entreraient toujours à Rafah, même si les négociations sur la libération des otages sont convenues. La déclaration du groupe du G7 montre l'inquiétude croissante du monde face au nombre croissant de victimes de la guerre en Palestine. Le G7, en tant que groupe de pays ayant les plus grandes économies du monde, devrait être en mesure de mettre fin en termes aux actions aveugles d'Israël qui ne veut plus seulement riposter aux attaques du Hamas, mais veut en outre effacer la Palestine de la carte du monde. Plus de 28 000 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur la bande de Gaza. L'attaque terrestre prévue par Israël sur la ville de Rafah dans le sud de Gaza, près de la frontière égyptienne, aurait des conséquences encore pires pour les civils, surtout si Rafah est aujourd'hui le lieu où environ 1,5 million de Palestiniens ont été déplacés par la guerre. C'est le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui avec Maudrey. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui par le 19 février 1945, la bataille d'Iwo Jima. La bataille d'Iwo Jima du 19 février au 26 mars 1945 fut une bataille majeure au cours de laquelle le corps des marines des États-Unis, USMC, et la marine américaine, USN, totalisant 30 000 soldats, débarquèrent et capturèrent finalement l'île d'Iwo Jima de l'armée, terre impériale japonaise, IJA. La bataille de 5 semaines fut l'une des batailles les plus féroces et les plus sanglantes de la guerre du Pacifique. Malgré de lourdes pertes des deux côtés, la victoire américaine était assurée dès le départ. L'écrasante supériorité américaine, en nombre et en armement, la suprématie aérienne, l'impossibilité d'une retraite ou de renforts japonais et le manque de nourriture et de fournitures pour le Japon ne permettaient pas de créer les conditions dans lesquelles le Japon gagnerait la bataille. Chers amis, passons maintenant à l'événement de 19 février 1960, commémoration de la journée du commandement de la défense aérienne nationale. Le 19 février 1962 a été célébré comme la journée du commandement de la défense aérienne nationale, Kohanudnas, se référant aux archives de la Bibliothèque nationale, Kohanudnas, et le commandement principal le plus important au sein du quartier général de l'armée nationale indonésienne et de l'armée nationale indonésienne de l'Air Force. En effet, son métier consiste à superviser les différents mouvements d'avions traversant le territoire indonésien. Kohanudnas dispose de 4 commandements sectoriels, à savoir à Jakarta, Makassar, Medan et Biak. Initialement, Kohanudnas s'appelait SOC, ou bien Sector Operation Center. La SOC se compose d'un certain nombre d'éléments de force en prévision des attaques aériennes du gouvernement révolutionnaire de la République d'Indonésie. Permesta, PRRI, à Java et à Sumatra. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui par le 19 février 1978. Les troupes égyptiennes prennent d'assaut l'aéroport de Larnaca. Le 19 février 1978, l'Égypte est confrontée à un acte de meurtre et de détournement d'avions perpétré par deux hommes armés lorsque le DC-8 de Cypriot Airlines est revenu à l'aéroport de Larnaca, à Chypre. Des soldats égyptiens se sont déplacés pour sauver les otages. Cependant, lors de cet incident, il y a eu une mauvaise communication entre les autorités cypriotes et l'armée égyptienne. L'armée a l'intention de sauver les otages, mais Chypre estime que les actions égyptiennes pourraient compromettre les négociations avec les pirates de l'air. En conséquence, une fusillade a eu lieu entre des officiers cypriotes et égyptiens à l'aéroport de Larnaca, lorsque l'agresseur et l'otage sont arrivés à l'aéroport. Après cet incident, les relations entre l'Égypte et Chypre ont continué à se réchauffer. Le président chypriote Kyprianou s'est excusé et a proposé de faire la paix avec l'Égypte. Pendant ce temps, deux pirates de l'air sont jugés initialement. Ils ont été condamnés à mort, mais le verdict a ensuite été modifié en réclusion à perpétuité. Bon, cher Jouetard, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Janjiku takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
Voilà la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « La Chine est prête à coopérer avec le nouveau gouvernement indonésien ». Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, RPC, a déclaré qu'il était prêt à collaborer avec le nouveau gouvernement indonésien. Cette déclaration a été faite en réponse à l'élection présidentielle. Citant un rapport de l'agence de presse Antara, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi dans une déclaration écrite à Pékin que la Chine souhaitait poursuivre sa coopération avec l'Indonésie pour construire une relation de confiance mutuelle. La Chine considère l'Indonésie comme un voisin proche. En porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, s'est dit heureux que les élections indonésiennes se soient déroulées sans problème. La RPC entretient réellement de bonnes relations avec l'Indonésie. Ces dernières années, les relations entre la RPC et l'Indonésie ont également maintenu une forte dynamique et ouvert de nouveaux chapitre pour construire conjointement une communauté de destin. Le communiqué indique que la Chine continuera d'approfondir la coopération stratégique dans son ensemble et de promouvoir des relations à long terme saines et stables entre la RPC et l'Indonésie, avec pour thème principal la construction d'une communauté de destin partagée afin qu'elle puisse créer des avantages pour les deux communautés. L'élection de 2024 a réuni trois pairs, à savoir Anies Baswedan Mohamed Iskandar comme candidat numéro 1, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka numéro 2 et Ganjar Pranowo Mahfud MD numéro 3. Conformément au règlement KPU numéro 3/2022, la récapitulation nationale du vote pour les élections de 2024 devrait avoir lieu du 15 février au 20 mars 2024. C'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ces auditeurs, le parc touristique de Kambang Iwak est un magnifique parc urbain avec un lac au milieu qui est désormais de plus en plus fréquenté et visité chaque jour par les habitants de Palembang et les touristes. Le parc Kambang Iwak est situé entre la rue Tasik et la rue Sutomo dans la ville de Palembang. Ce parc, qui s'étend sur une superficie d'environ 5 hectares, est complété de diverses installations continuellement mises à jour. Ces installations comprennent une aire de jeu pour enfants, des sièges, l'eau du robinet qui peut être bu directement et des hotspots gratuits pour ceux qui souhaitent accéder à l'internet tout en se relaxant et en profitant du jardin ombragé. Habituellement, les touristes profitent d'un environnement verdoyant et de certains bâtiments du patrimoine irlandais. L'emplacement devient l'un des équipements publics de rassemblement car le parc est complété par des installations de soutien. Ces auditeurs, l'emplacement du parc touristique Kambang Iwak n'est pas loin du centre de la ville de Palembang. Il est facile d'utiliser les transports en commun. Il est gratuit d'entrer dans cette zone. En entrant dans le parc Kambang Iwak, vous serez accueilli par des arbres verdoyantes et luxuriants. Au milieu du parc se trouve un lac propre équipé d'une fontaine qui s'anime à chaque heure de la journée et au milieu du lac, il y a un pont d'environ 200 mètres de long. Le pont divise le lac relie la rue Tasik et la rue Sutomo qui se trouve de l'autre côté. En outre, ce parc est également complété par des installations qui permettent aux touristes de rester plus longtemps là-bas. Il y a aussi une piste de jogging pour faire du sport et des banques au bord du lac. Dans le parc, il existe également de nombreux stands de nourriture proposant différents types de menus. Le meilleur moment pour visiter le parc touristique de Kambang Iwak est le matin et le soir car à ce moment-là, l'atmosphère du parc est fraîche et confortable pour en profiter. En raison de son emplacement stratégique, le parc devient un lieu de rassemblement de jeunes pour réaliser certaines activités comme jouer au skateboard, danser, jouer de la guitare, prendre des photos et bien d'autres. La nuit, le parc est magnifiquement mis en valeur grâce aux lumières décoratives qui entourent presque tous les coins du parc. C'est Jolita, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure et à la même fréquence. À bientôt!
Masa depanku.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Solo. Di Solo signifie à solo. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Sebelum membeli batik. Je répète, Sebelum membeli batik signifie avant d'acheter le batik. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et Ayu, l'ami de Chris dans la communauté de vlogs au village du batik Lawean à Solo. Chris a exprimé son désir de savoir comment fabriquer du batik avant de l'acheter.
Di kampung batik Lawean Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik. Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Sebelum membeli batik. Sebelum membeli batik signifie avant d'acheter le batik. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Sebelum. Sebelum signifie avant. Membeli. Membeli signifie acheter. Baju batik. Baju batik signifie vêtement en batik. Ingin tahu. Ingin tahu signifie curieux. Cara. Cara signifie comment ou façon. Membuat. Membuat signifie créer. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Signifie avant d'acheter des vêtements en batik, je veux savoir comment les fabriquer. Kampung. Kampung signifie village. Lawean Solo. Lawean Solo signifie Lawean Solo. Beragam. Beragam signifie divers. Belajar. Belajar signifie étudier. Membatik. Membatik signifie faire du batik. Dans la conversation, vous entendez la phrase « Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. » Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Signifie avant d'acheter un vêtement en batik, je veux savoir comment le fabriquer. Dans cette phrase, il y a un mot « sebelum ». Je répète. Sebelum, qui relie les deux parties de la phrase, à savoir saya membeli baju batik dan saya ingin tahu cara membuat batik. Saya membeli baju batik
dan saya ingin tahu cara membuat batik. Signifie j'achète des vêtements en batik et je veux savoir comment fabriquer du batik. Dans le contexte de la conversation, Chris avait le désir de savoir comment fabriquer du batik avant d'acheter des vêtements en batik. La conjonction sebelum, je répète, sebelum signifie avant, est placée avant la partie du discours qui énonce l'activité qui est réalisée au début. La partie du discours à laquelle est attachée la conjonction sebelum, sebelum signifie avant, peut être placée au début ou à la fin du discours. Allez, écoutez des exemples d'utilisation de la conjonction sebelum. Sebelum signifie avant dans une autre phrase. Avant d'aller au village Batik Lawean, Chris a préparé son équipement de vlogging. Chris a pris des photos avec des artisans du batik avant de rentrer chez lui. Le village de Batik Lawean est la destination des attractions touristiques de Surakarta. Cette zone est le centre de l'industrie du batik. Ce village est dans le district de Lawean. On dit que Lawean vient du mot Lao, qui signifie fille. Dans le passé, de nombreux habitants de cette région fabriquaient des tissus de haute qualité. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Di Kampung Batik Lawean Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik. Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
Chers amis, voilà l'émission à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
Yeah, come on, what is the law? And me, my bro, Obozi, W.
lagi. Traffic jam ngajak ribut malam ini. Jam 8 masih aja begini. Apalagi ku berangkat jam 5 sore tadi. Klapit lampu merah, kedap-kedip bikin resah. Si doi pasti bakal marah-marah. Mulut komat kami doa penuh pasrah. Semoga bukan tanda akhir kisah.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical avec Maudry. Et cette fois, nous vous présentons une chanson croncheon intitulée « Pergi untuk kembali ». Chers amis, cette chanson créée par Mingus Taito a été chanté par plusieurs chanteurs dans diverses versions, comme Bruri Marantika, Meli Guslao et Diana Nasution. Le dernier a été chanté par Marcelo Taitu, ou bien Elo. Cette chanson est populaire depuis les années 70 et 80 et semble être une chanson incontournable pour les moments d'adieu. La chanson raconte l'histoire de la séparation d'une couple d'amants. L'amant a promis de revenir après son départ. Pour changer de temps, voici la chanson croncheon intitulée « Pergi untuk kembali » chantée par Oki Kumala. Bonne écoute!
Senyuman padaku. lagi takkan lama.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.